السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونوالاه يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الإسلام، ça fait plaisir de voir ces visages illuminés, de voir ces personnes habillées de leurs plus beaux vêtements parfumés. On sent que les cœurs sont remplis de joie. C'est la joie du Eid. Chers frères en islam, un jour, nous serons inshallah rassemblés auprès d'Allah Azza wa Jalla de le Jannah, lorsqu'Allah Azza wa Jalla invitera chaque croyant pour venir contempler sa beauté régulièrement. Et nous serons parés de nos plus beaux habits, nous serons parfumés, et il y aura ce nôle sur notre visage, mais aussi une tranquillité, la sakina, la quiétude de le cœur. C'est le Jannah, c'est l'endroit où il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'angoisse, où les croyants auront reçu leur récompense. Mes chers frères, c'est pour ça qu'on a fait un mois de Ramadan, de Saum. C'est pour ça qu'on prie 5 fois par jour. C'est pour ça qu'on fait des bonnes actions. C'est pour ça qu'on s'éloigne du haram. C'est pour ça que je suis musulman. C'est pour ça que j'ai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans mon cœur. Et ce moment-là doit être attendu impatiemment par chaque croyant. C'est le moment de la délivrance. Chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous a donné le tawfiq, la possibilité de jeûner un mois complet, 30 jours de Ramadan cette année encore, avec toutes les bonnes actions, le jeûne bien sûr, la salat al-tarawih, le dhikrullah, la lecture du Coran, les sadaqas, avec iman, avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah de le cœur, c'est la clé pour entrer au Jannah, avec ikhlas, sincérité inshallah, siha, en bonne santé, si on est là, alhamdulillah, c'est qu'on n'est pas malade. C'est un ni'mah de la part d'Allah. Et surtout une qualité qui normalement habite le cœur du musulman toute l'année. Plus encore durant le mois de Ramadan et encore plus en ce jour de Eid, c'est ce qu'on appelle al-ihtisab, l'espoir de rétribution. La conviction qu'Allah est karim, généreux, qu'il va nous récompenser pour ce mois de ferveur. Mes chers frères en islam, gardez confiance en notre Rabb, notre Seigneur, car il est généreux. Lorsqu'on entend le hadith, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ lorsqu'Allah Azza wa Jal dit c'est moi qui rétribue le jeûneur, c'est-à-dire Allah donne personnellement les hasanat, les récompenses pour le croyant qui fait le jeûne. Ça remplit notre cœur de joie. C'est le Eid parce que nous savons qu'aujourd'hui nous obtenons la récompense finale d'Allah Azza wa Jal. Quand on essaie d'imaginer comment est-ce qu'Allah est généreux, impossible, parce que Al-Karim, c'est la générosité d'Allah, ça dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Juste analyser Laylatul Qadr, une nuit de prière vaut mieux que al-fishar, 1000 mois. Les savants disent que ça c'est un namoudaj, c'est un exemple. C'est un exemple pour que l'homme réalise comment Allah est généreux, comment il est capable de récompenser, de rétribuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos cœurs sont remplis de joie. Et pour avoir encore plus de motivation, pour ce jour où nous allons rencontrer Allah, le prophète alayhi salatu wasalam a dit que la plus grande joie, c'est farhatun 'inda liqa'i rabbi, lorsque le jeûneur, lorsque le croyant va rencontrer Allah le jour de Qiyama, c'est ça la grande joie. Et encore plus de motivation lorsque le prophète alayhi salatu wasalam nous a informé que dans le Jannah il y a une porte spécifique qui s'appelle Ar-Rayyan, réservée aux jeûneurs. Qu'Allah Rabbul Izza accepte notre Ramadan, nos jeûnes, nos a'mal, et qu'Allah nous accorde le Jannah par le biais de cette porte. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Mes chers frères en islam, depuis le début, une bidaya, depuis le début du mois de Rajab, Sha'ban, Ramadan, on insistait sur le fait que l'objectif final du jeûne, ce n'était pas le Ramadan en lui-même. L'objectif n'était pas le jeûne, la salat al-tarawih, les khatm al-Qur'an, non. L'objectif, c'était parvenir à la taqwa. La'allakum tattaqoun. Ainsi, les actions qu'Allah nous a donné la possibilité de pratiquer durant ce mois, c'était des intermédiaires pour nous ramener vers la taqwa, vers la piété. Et c'est quoi la taqwa? C'est la crainte d'Allah. Comment ça se manifeste, la crainte d'Allah? L'accomplissement de bonnes actions. L'éloignement du haram, tout le temps, régulièrement. dans le Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, fi sirri wal alan, en public, en privé, avec conviction, et c'est ça qui est important. Yaqin, qu'Allah est au-dessus de moi. Allah m'entend, Allah me voit. Et l'étape suivante, c'est avec la conviction qu'un jour je retourne auprès d'Allah. Et quand je retourne auprès d'Allah, je réponds de mes actions et de mes choix de ce dunya. Ça, c'est la taqwa. Maintenant que le Ramadan est terminé, nous devons faire un bilan. Être capable de voir, est-ce que les actions que j'ai accomplies au quotidien m'ont permis d'atteindre la taqwa? Est-ce que je suis devenu un homme pieux qui a la crainte d'Allah dans son cœur? Est-ce que je ressors de ce Ramadan avec des acquis qui me permettent de devenir parmi les muttaqin? Mes chers frères en islam, ce sont là les bonnes questions que nous devons nous poser. Avant d'aller vers les festivités du Eid, chaque croyant doit faire un bilan de ce Ramadan pour prendre conscience comment est-ce que je me suis rapproché d'Allah durant ce saum, cette période de jeûne, et surtout, comment je vais faire pour rester proche d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est donc un premier point. Maintenant, il y a un enchaînement nécessaire entre ce Ramadan et l'après-Ramadan. C'est ce qu'on appelle l'istiqama. Les savants disent que dans cet enchaînement, nous voyons toute la cohérence qu'il y a de notre dîn. Parce que le Ramadan, ce n'est pas une finalité, comme on a dit en introduction. Ce n'est pas non plus une période de ferveur où on va être proche d'Allah, on va être proche des gens, mais uniquement un mois de l'année. Et ensuite, durant 11 mois, on va retourner vers ce qu'on appelle une vie, na'oudhu billah, une vie normale, une vie mondaine, une vie d'insouciance, où on va oublier Allah et on va oublier les gens qui sont autour de nous. Ce serait là une religion incohérente. Parce que mes chers frères, la piété, la bonté, la solidarité, la fraternité, l'amour pour son prochain n'aurait aucun sens s'ils étaient périodiques, limités dans le temps. Je ne peux pas être muttaqi pieux un mois de l'année. Je ne peux pas être généreux un mois de l'année. Je ne peux pas être un fervent serviteur d'Allah un seul mois de l'année. Et les qualités, là, mes chers frères, que nous avons développées de façon intensive à travers le salat, à travers les actions du mois de Ramadan, doivent en fait être des qualités intrinsèques aux croyants, propres aux musulmans. Ça doit être nos sifat à nous, nos qualités. Et c'est l'objectif du mois de Ramadan. Habituer le croyant à vivre ses qualités spirituelles, ses qualités humaines, ses qualités citoyennes, pour qu'elles fassent partie de sa personnalité, pour qu'elles deviennent son mode de vie, qui est le mode de vie qu'Allah agrée pour le musulman et le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons aussi à travers ces qualités recherchées, la continuité du message de l'islam. Lorsqu'Allah Rabbul Izzah dit « Kama kutiba ala alladhina min qablikum » le jeûne était prescrit comme il était prescrit à ceux avant vous, ça veut dire que même pour les Yahoud, les Juifs, les Nassara, les chrétiens, lorsqu'ils ont eu ce ibadah de la part d'Allah Azza wa Jal, le but c'était qu'ils deviennent pieux. La proximité avec Allah, la soumission, la dévotion, c'est ce qu'Allah Rabbul Izzah a demandé à chaque croyant à toutes les époques. Donc je comprends que je suis dans la continuité des grands adhyan, des grandes religions, et je me dois de mettre, d'avoir cette qualité dans ma vie. Maintenant, voyons, on parle des qualités, des qualités. Voyons concrètement les qualités que j'ai, incha'Allah, développées et acquises durant ce mois, consciemment ou inconsciemment. Parce que vous savez, il y a des fois, on enchaîne les carèmes, les namaz tarawih, on a l'impression que on ne fait justement qu'enchaîner, mais il y a un tel nour, une telle lumière qui s'installe dans nos cœurs, on n'en est pas conscient. C'est-à-dire que là qu'on sort après 30 Ramadan, chaque personne présente est porteur d'une lumière dans son cœur. On doit essayer de comprendre c'est quoi les lumières que j'ai obtenues et surtout comment je vais les garder, ne pas les perdre. Premièrement, la proximité avec Allah, la taqwa, la soumission à Allah. Et cela, on l'a développé en accomplissant de bonnes actions, les bonnes actions qu'on a expliquées, mais également, et j'aimerais plutôt dire, et surtout, en restant éloigné du haram. En restant éloigné du haram, en accomplissant les bonnes actions, vous savez, quand on va joindre ces deux efforts, c'est là un véritable exercice spirituel. On travaille le iman, on travaille le taqwa. C'est une éducation spirituelle intensive. C'est un grand pas vers Allah qu'on a fait durant ce mois avec l'abstinence et l'accomplissement intensif des bonnes actions. Et cela doit nous faire réaliser une chose, mes chers frères. une phrase très simple qui en fait un verset du Coran qui résume ma vie, qui résume votre vie, qui résume la vie de chaque croyant. قُلْ إِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Que ma vie, ma mort, tout, j'appartiens uniquement à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est le grand enseignement du mois de Ramadan. Que ce mois, je l'ai fait pour Allah et je dois retenir cela. Que j'appartiens à Allah. Maintenant, comment faire pour que cette qualité reste dans ma vie? La deuxième grande leçon qu'on a appris durant ce mois, c'est être proche des hommes. L'islam, mes chers frères, est une religion de spiritualité. Ça, on l'a vu. Mais c'est aussi une religion de fraternité, une religion d'amour. Et à travers les piliers de l'islam, nous le voyons au quotidien. La salah, c'est un ibadah spirituel, mais c'est également un acte d'adoration qui rassemble les hommes. Voyez comment on est réunis. Qu'on soit riche, pauvre, grande famille ou famille, sortie d'ailleurs, blanc, noir, on est tous devant Allah, dans un même endroit. C'est un ibadah qui rassemble les hommes, la jama'at. La zakat, par excellence, une action qui permet aux gens qui ont eu des bienfaits de venir en aide à ceux qui en ont moins. Le ramadan, par excellence, on va expliquer ça. Le hajj, on se dit que le hajj, c'est juste aller à Makkah, Mina, Arafat, Muzdalifa. Le hajj, c'est aussi apprendre à se respecter. Quand vous avez 3 millions de personnes dans des endroits restreints, le professeur Salam a interdit de bousculer, d'insulter, de mal agir. Tout ça, mes chers frères, ce sont des qualités humaines que nous développons dans les piliers de l'islam. Et justement, ce qui nous intéresse, le jeûne du ramadan, justement, c'est par excellence l'action où le caractère humain, le caractère social est le plus présent. Par le biais de la sadaqa. Par le biais de la sadaqa. Lorsque, un petit peu d'eau, barakallahu fikoum. Lorsque nous savons que le prophète, alayhi salatu wassalam, a vivement conseillé, kana ajwadu ma yakunu fi ramadan. Notre prophète était l'homme le plus généreux toute l'année. Mais lorsque le ramadan arrivait, il devenait encore plus généreux. Donc, on connaît que le mois de ramadan, c'est le mois où on doit donner le maximum de sadaqa. Également, iftar al-sa'im. Le fait de partager notre repas avec un jeûneur. C'est une action propre au ramadan, extrêmement importante. Ça veut dire que nous sommes tous frères. Nous avons jeûné ensemble, nous avons été patients ensemble. Au moment de rompre le jeûne, nous connaissons cette joie ensemble. C'est un ibadah qui rassemble les hommes. Et là, nous voyons toute la cohérence du dîn. Et ça, c'est un point très important. On ne pourra jamais s'élever spirituellement, se rapprocher d'Allah, tant qu'on ne tend pas la main aux personnes en difficulté. Je ne peux pas être un homme pieux avec ma grande barbe, mon kafni, seul dans ma mosquée, dans ma maison, en fait, tahajjud, alors que mon voisin meurt de faim ou qu'il a des difficultés. Ça, c'est incohérent. Ce serait une piété biaisée. Ce serait une piété, astaghfirullah, hypocrite. Notre dîn, c'est relation avec Allah, c'est également relation avec les gens. Dans la vie de tous les jours. Pas uniquement, bien sûr, durant ce mois. Mais justement, on y vient chronologiquement. Durant le mois, on essaie de donner le maximum de sadaqa. Le point culminant de cet esprit de solidarité, c'est ce qu'on a tous déjà fait maintenant, du moins j'espère, ou alors bénéficié, c'est la sadaqatul fitr. Appelée également fitra ou appelée zakatul fitr. Quel est l'objectif du sadaqatul fitr? C'est de permettre aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens de vivre un Eid dans la dignité. Qu'ils puissent acheter des vêtements neufs. C'est pour ça qu'il faut donner un peu avant Eid. Qu'ils puissent acheter, mashallah, des choses correctes, préparer un bon repas. Que leurs enfants aient des cadeaux. Qu'ils vivent un Eid dans Izza, comme nous, autrement. Je suis une personne aisée, je vis un Eid, je festoie, je mange le ventre plein, et mon voisin, il se contente des miettes. C'est pas islam, ça. C'est pas taqwa, ça. C'est pour ça qu'on voit là le message profondément humain dans le ramadan et dans le sadaqatul fitr. Ça, c'est un dîn qui est Kamil, qui est complet. Et ce message de solidarité, mes chers frères, il n'est pas propre au ramadan. Le prophète sallam avait conseillé toute l'année, at'imit ta'am, hadith imam Ahmad, donnez à manger aux gens, invitez les gens chez vous pour manger. Le prophète sallam a dit que la chose la plus lourde de la balance, ce sera al-khuluq al-hassan, le bon comportement, hadith de Abu Daoud. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, attention, ne faites jamais du tort à votre prochain, musulman ou non musulman, car si quelqu'un qui a été opprimé invoque Allah contre vous, il n'y a pas d'obstacle. Allah accepte la malédiction de l'opprimé. Que ce soit un musulman ou un non-musulman. Ça, c'est le comportement, qu'est-ce qu'on avait dit, intrinsèque, propre à chaque croyant, qu'on développe de façon intense durant ce mois et qui doit s'installer dans notre vie pour en devenir des qualités principales. Et la troisième grande leçon que nous avons appris durant ce mois, C'est être en paix avec soi-même. Concilier le corps et l'esprit, de telle sorte que le corps ne devienne pas l'esclave de ce qu'on appelle al-nafs, al-hawa, al-shahawat. Trois termes en arabe qui désignent l'ego, l'instinct humain. Il ne faut pas qu'on devienne comme ceux qui n'ont pas iman, ils veulent faire quelque chose, ils le font. Ils ne veulent pas faire quelque chose, ils ne le font pas, sans réfléchir aux ordres et aux interdits d'Allah. Et cette maîtrise de soi, on l'apprend par trois actions. As-sabr ala ta'a, faire de bonnes œuvres. J'ai pas envie de venir salat al-fajr, je viens quand même. J'ai pas envie de rester jusqu'au 20e tarawih, j'ai mal au genou, on est au 14e, je veux rentrer. Je dis non, je reste ferme. Ça, c'est une éducation de l'iman, ça. On apprend notre nafs à obéir au iman et non pas à ses envies. As-sabr ala al-ma'siya, j'ai envie de faire quelque chose qui n'est pas bien, je m'abstiens, je m'en éloigne. Pourquoi? Parce que je sais que Allah n'est pas satisfait. J'apprends mon nafs à se soumettre à Allah. Ça, c'est un test qui est ajib, ça. Une purification intérieure durant ce mois. Et as-sabr ala al-bala, quand on a faim, on est fatigué, et ainsi de suite, on ne manifeste pas notre colère sur les gens, quand on est en état de jeûne. C'est-à-dire, on apprend à se maîtriser totalement pour que corps et esprit ne font plus qu'un. Tout ça, mes chers frères, ce sont des grands enseignements, des grands enseignements, des grands durous du mois béni de Ramadan. Le musulman éclairé, c'est celui qui ressort de ce mois, Inch'Allah, avec ses acquis qu'il va appliquer dans la vie de tous les jours. Et nous demandons à Allah de nous accorder ses sifat, ses qualités, pour que nous devenions min al-muttaqin, comme Allah attend de nous, des gens pieux, proches d'Allah, proches des gens, et qui a un contrôle sur soi-même. Mes chers frères, en islam, aujourd'hui, c'est le jour de Eid. On retrouve ses amis, ses proches, sa famille, avec beaucoup de joie. Parce que, mes chers frères, c'est ça aussi l'islam. Silatul Rahim. Entretenir des liens de parenté, entretenir le muhabba au sein de la famille, mais plus généralement au sein de la communauté. Et le jour de Eid, mes chers frères, c'est également synonyme de récompense finale. Dans les hadiths, il est stipulé qu'en ce jour, les malaïka viennent tout autour des massages et des musallas, c'est-à-dire des idgas. Et ils voient les gens qui se rendent à la prière de Eid. Et ils font doua pour eux. Et Allah, Rabbul Izzat, demande à ses anges, et Allah connaît mieux, « Oh mes malaïka, quelle est la récompense pour celui qui a accompli ce que je lui ai demandé ?» Est-ce que ce n'est pas le cas de chacun d'entre nous? Nous avons jeûné un mois et nous sommes présents. Et les anges disent, « Oh Allah, que tu leur accordes ton maghfira. » Et Allah dit, « Je vous prends témoin, oh mes anges, qu'ils sont tous pardonnés. » Et qu'en contribution de leurs efforts, je les accordais mon ridaï, ma satisfaction et mon marfira. Mes chers frères, les savants disent que ça c'est le cadeau du jour de Eid. Et quand on va quitter la masjid dans un instant, qu'on rentre chez soi, il y a cette annonce qui dit « Insarifu marfuran lakum ». Allez-y maintenant, vous pouvez rentrer. « Marfuran lakum ». Allah vous a déjà pardonné. Si ça, c'est pas le plus beau cadeau. Si ça, ça ne remplit pas nos cœurs de joie, mes chers frères, ça c'est le hadiya, ça c'est le cadeau du Yawm al-Eid, le cadeau après un mois de ferveur, en attendant le cadeau final qui sera lorsqu'on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Le Eid, on doit le manifester avec beaucoup de joie, donner des cadeaux et ainsi de suite. Comme on a dit, Abu Bakr radiallahu anhu avait vu une fois deux petites filles qui chantaient auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète a dit, oh Abu Bakr, chaque nation a ses fêtes. Aujourd'hui, c'est notre Eid à nous, c'est notre fête. Laissez les enfants chanter, laissez la joie s'exprimer. Mes chers frères, c'est ça aussi l'islam. L'islam, c'est quand le prophète dit que Allah aime voir les bienfaits qu'il a accordés à chaque personne, qu'on se parle de beaux habits, qu'on se fasse beau pour Allah. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah est beau. Allah aime la beauté. C'est ça aussi le dîn. Manifester la joie, mais tout en étant reconnaissant que c'est Allah qui nous a accordé ses bienfaits et en restant dans les limites de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Mais mes chers frères, même dans les moments de joie, on ne doit jamais oublier, premièrement, les personnes qui n'ont pas les moyens. Et ça, on est expliqué avec la zakatul fitr. Et on incite maximum les personnes qui peuvent d'accueillir des personnes démunies chez vous. Si c'est difficile, s'il manque d'espace, envoyez à manger aux personnes qui sont démunies. Ça, c'est le Eid de la Ummah. Deuxièmement, une pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette année. Les familles qui sont maintenant endeuillées, et les personnes malades. À Saint-Denis, nous avons perdu le doyen de la communauté, qui avait 92 ans. En la personne, si je me permets de citer, Haji Ghulam Mulla, Allah yarhamhu. Nous avons perdu également un jeune enfant de 6 ans, Allah yarhamhu. Nous avons été affectés depuis le Ramadan dernier par le départ de Hafez Uthman Kaji, qui était imam à Saint-Denis, et le décès récemment de Mouana Shabir Mulla, qui était imam de cette masjid. Ce sont des événements qui ont rempli nos cœurs de tristesse, mais nous les acceptons. Nous les acceptons car c'est là la décision d'Allah. Et c'est ça aussi le iman, c'est ça aussi l'islam, accepter la décision d'Allah, se soumettre au décret divin, même si pour nous c'est difficile, mais avec ihtisab, le même mot qu'on a dit au début, espoir qu'Allah va nous rétribuer le jour de Qiyama pour ces difficultés. Qu'Allah accorde à ces familles qui vont vivre certainement le premier Eid sans cette personne proche, un Eid difficile, mais qu'Allah Rabbul Izzah leur accorde sabrun jamil. Une pensée également pour les personnes qui sont malades, hospitalisées, les enfants qui souffrent. Qu'Allah Rabbul Izzah nous raccorde Shifa Kamila en ce jour. Et il y a une pensée également, mes chers frères en islam, pour les personnes qui souffrent à travers le monde. Ces personnes, toutes confessions confondues, qui souffrent d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu, ces civils, ces femmes, ces enfants, qui meurent chaque jour injustement et qui tombent sous les coups des armes de guerre. Qu'Allah ramène la paix de ce dunya, de ce monde, et que les populations arrêtent de s'entretuer. Mes chers frères en islam, chaque rouh, chaque vie, chaque âme est avant tout une créature d'Allah, makhlouq, qui mérite la vie. On n'a pas le droit de toucher à cette vie. Que les gens apprennent à se respecter mutuellement, à s'accepter, à vivre ensemble de le respect de l'autre. Autant nous condamnons les injustices, les crimes qui sont perpétués contre les populations musulmanes à travers le monde. Là, bien sûr, on pense à la Palestine, on pense à la Syrie, on pense à la Birmanie, on pense à Centrafrique. Mais autant nous condamnons avec autant de fermeté n'importe quel acte terroriste qui sera perpétué, Zulman, Kazaban au nom de l'islam, ainsi que le massacre de toute personne innocente, quelles que soient les religions. Autant ce qui se passe en Birmanie, pour revenir à la Birmanie, nous assistons impuissants à une véritable épuration ethnique des Rohingyas musulmans. C'est inacceptable. Mais autant, lorsqu'on voit ce qu'ils ont fait au Nigeria, les Boko Haram, c'est aussi inacceptable. C'est ça être musulman, c'est être juste, c'est être droit. On dénonce les torts qui nous sont faits, mais on dénonce les torts qui ont été perpétués par des musulmans au nom de l'islam. Parce que Allah aime l'équité, Allah aime la justice. Chaque goutte de sang qui est tombée, c'est une goutte de sang haram. Et une pensée particulière, je reviens, on doit revenir sur ce point, sur la terre des Anbiya, cet endroit qui est vénéré, qui est respecté par toutes les religions, les trois grandes religions monothéistes, Asham, la Syrie, qui connaît des souffrances depuis bientôt 2 ans, la Palestine, qui connaît encore une fois une guerre dans un sens, où il y a plus de 800 personnes qui sont mortes durant ce mois béni, principalement des enfants, des femmes, encore une fois, on le répète, sous des armes de guerre. Imaginez comment est-ce qu'ils ont vécu leur Eid hier à Damas. Comment ils ont vécu leur Eid hier à Gaza, dans ces régions. Allah leur vient en aide. Mes chers frères, l'islam condamne le meurtre d'innocents, on l'a dit. Il condamne toute forme d'injustice, on l'a dit. L'islam condamne également la haine gratuite. Qu'est-ce qu'on appelle la haine gratuite? C'est détester son prochain, qui nous a rien fait. Ce qu'on appelle le racisme, la xénophobie, ce sont des choses détestées dans notre religion, interdites. Le prophète salam avait cohabité avec 3 tribus juives. Même quand il y a eu des problèmes avec une des 3 tribus, ça ne l'a pas empêché d'avoir de bonnes relations avec les autres. On ne généralise pas un problème. Également, vous voyez que le prophète alayhi salatu wa salam, malgré, il y a eu une période où il y a eu des guerres entre ces tribus et les musulmans. Mais malgré ça, le prophète alayhi salam avait rendu visite à un enfant de confession juive qui habitait de son voisinage. Il n'y avait pas de rancœur, il n'y avait pas ce qu'on appelle le grand mot de nos jours, antisémitisme. Ce qui est repris par certaines personnes, malheureusement, je ne sais pas dans quel objectif, pour nous ou contre nous, Allahu a'lam. Le prophète alayhi salatu wa salam, avant de mourir, avait contracté un emprunt avec un commerçant de confession juive. C'est-à-dire qu'il n'avait pas généralisé le problème. Ça, c'est adl. Même si de l'autre côté, on va dire, oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de toi de l'autre côté. On ne regarde pas, on ne répond pas. à la violence par la violence. On ne répond pas à la haine par la haine. Ce n'est pas le mode de vie prophétique. Notre prophète nous a enseigné un akhlaq, un mode de vie. C'est ce mode de vie que nous appliquons. Et comme on l'a dit, si vous voulez voir la justice qu'il y a de l'islam, que vous vous référez au verset de Sourate Tahrim, « La yanhakum Allahu an illadina, lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, an tabarruhum, wa tuqsitu ilayhim. » Il y a deux mots. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Celui qui t'a rien fait n'a pas le droit de le détester. C'est zulm. Et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Et la conclusion du verset, parce que vous savez, chaque verset, et pour chaque verset, une conclusion. C'est la conclusion qui nous donne véritablement le sens, l'objectif. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime les gens qui sont justes, qui font preuve d'équité. Soyons justes dans nos sentiments également. Ainsi, autant nous sommes touchés par ce qui se passe dans ces régions, il serait injuste d'importer un conflit qui ne concerne pas des populations, alhamdoulilah, qui s'entendent correctement. La justice est le plus important. Et la justice, nous devons le réclamer également pour nos frères musulmans qui souffrent d'islamophobie. Cet acte de racisme doit être reconnu au même titre que l'antisémitisme. Autrement, s'il y avait une justice uniquement pour des gens de quelques confessions et d'autres personnes à cause de leur appartenance religieuse ne bénéficiaient pas de cette justice, ce serait une honte et une atteinte au principe de la liberté qui est un des principes de notre République. Et ce serait également une insulte à l'héritage du siècle des Lumières, dont la France a toujours réincarné, la France a toujours été la référence depuis le XVIIIe siècle. Si cette lumière s'éteint au XXIe siècle, ce serait même un affront pour l'histoire de la civilisation. Mes chers frères, en parlant d'héritage justement, revenons sur le plan local. On ne doit jamais oublier les acquis que nous avons à La Réunion. Et nous devons en être fiers. Parmi ces acquis, il y a ce qu'on appelle le savoir-vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est propre à nous, alhamdoulilah. La cohabitation de toutes les religions existantes, toutes les religions qui existent dans le monde se trouvent ici et pratiquent. Ils ont leur lieu de culte sur un territoire de 2500 km², avec une entente, alhamdoulilah, cordiale et parfaite. Une harmonie qui est citée parfois au-delà de nos frontières. C'est une faveur d'Allah Azza wa Jal. Ça s'appelle Al-Amn. Al-Amn, c'est quand on a la tranquillité. On peut pratiquer notre religion avec la paix. Ça, il faut le garder. Ça, c'est pas donné à toutes les populations. Ensuite, c'est une faveur d'Allah. Ensuite, c'est un travail entrepris en amont par nos grands-parents. La première génération, Allah Jazim Khaira, qui est venue s'installer à La Réunion. Un effort pour s'intégrer. Un effort pour se faire accepter. Pour accepter l'autre et l'apprécier avec ces différences, ça c'est essentiel. Et cela nous permet d'avoir jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, une société multicolore, multiculturelle, où chaque religion a déjà fait son travail d'intégration il y a un siècle. On n'en est plus à l'intégration, on y est, alhamdoulilah. Et chaque citoyen, parce qu'avant de les appeler croyants, on peut dire également que ce sont des citoyens, ils trouvent leur épanouissement par le biais de leur pratique religieuse, tout en étant respectueux des principes de la République. Mes chers frères, ça c'est un acquis important que nous devons, pour lequel nous devons être reconnaissants, remercier Allah. Maintenant, cet héritage, nous devons le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Faisons très attention. Nous devons résister à la mondialisation, qui n'amène pas que les progrès techniques. Faisons attention également à tout courant xénophobe ou fondamentaliste qui prône la haine de son prochain. Nous devons faire doua, beaucoup de doua, pour qu'Allah Azza wa Jal garde ce bienfait ici et que jamais un jour nos enfants n'aient à parler de ce bon vivre ensemble comme étant quelque chose d'utopique qui appartenait à nos grands-parents. Et enfin, mes chers frères, il y a un autre ni'ma, un autre bienfait que nous avons ici à La Réunion. Et là, c'est plus communautaire, c'est plus, on va dire, plus propre à la communauté musulmane, c'est la solidarité au sein de la communauté. Pour tous les projets religieux, tout ce que nous possédons, bidillah, comme infrastructure, masajid, médersa, cimetière musulman, c'est une faveur de la part de notre Seigneur. Ensuite, c'est aussi le travail de nos grands-parents. Nous savons, si vous lisez les livres d'histoire de la population musulmane à La Réunion, vous savez qu'à chaque fois qu'ils gagnaient un peu d'argent à la fin du mois, ils gardaient une partie pour masjid, madrasa et kabristan. Ça, c'était un geste valeureux. Ça, c'est le plus beau waqf qu'ils ont pu faire de leur vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, nous prions dans des mosquées. Nos enfants vont à la madrasa. Il n'y a pas eu une génération où les enfants n'ont pas eu ta'alim. Lorsqu'on a un mayet, on l'enterre et ça ne coûte rien aux familles. Tout ça, ce sont des faveurs de la part d'Allah. C'est également le travail qui a été fait en amont par nos grands-parents. Et cela a été possible par la grâce d'Allah. Encore une fois, toujours remercier Allah. Ensuite, par leur effort. Ce qui veut dire qu'il est maintenant de notre devoir de perpétuer cette action, de garder cette habitude. Ce que nos grands-parents nous ont transmis, ce n'est pas un trophée qu'on va brandir, on va montrer à la France métropolitaine, on va montrer aux autres pays francophones, regardez comment nous vivons à La Réunion. Ce n'est pas un trophée, mes chers frères, c'est un flambeau qu'on nous a donné et que nous allons passer à nos enfants. Nos enfants doivent avoir les mêmes chances que nous avons eues quand nous étions jeunes. Maintenant, il y a des projets dans toutes les zones de Saint-Denis, parce que la population augmente. La démographie de La Réunion dépasse celle de la France. On a des besoins. À Saint-Denis, il y a des besoins. Au Latani, il y a une madrasa. À Sainte-Clotilde, on a besoin d'une nouvelle masjid. Au Moufia, on a besoin d'acheter un terrain pour un masjid et madrasa. Il est de notre devoir de perpétuer le travail qui a été fait par nos grands-parents, par amour pour Allah, ensuite pour honorer la mémoire et le geste qui a été fait par nos ajdad, nos dada et nos nana. Mes chers frères, qu'Allah nous accepte, qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, que la piété s'installe dans nos cœurs, que nous devenions des croyants pieux, proches d'Allah, proches des hommes, et que nous arrivons à contrôler notre nafs, qu'Allah nous accorde istiqama pour garder cette ligne de conduite après le ramadan, rester ferme dans les prières, dans le contrôle du regard, dans le contrôle de la langue, et ainsi de suite, et qu'Allah nous accorde les meilleures qualités qui sont possibles pour les croyants parmi les muttaqin. On va procéder à l'explication de la salatul Eid. Il est nécessaire de le faire, parce que ça se fait deux fois par an. Il y a des fois où on oublie, et le rappel est profitable pour le croyant. Mes chers frères, la prière de Eid est composée de deux rakat, et dans le niyat, on doit rajouter avec six takbir wajib. Contrairement au Jum'a, on fait le namaz avant, ensuite le khutba. Ce qui veut dire que quand le namaz est terminé, on ne quitte pas la masjid. Le khutba est obligatoire. Donc, l'imam va faire deux rakat. Je vais me mettre debout, au moins vous pouvez voir le gestuel. On le rappelle tous les ans, mais il faut le faire. Parfois même les imams peuvent se tromper. J'espère que ça ne va pas se produire, Inch'Allah. Donc, le premier rakat, je commence Allahu Akbar normalement. Je croise mes mains, comme un namaz normal. Je lis Sana. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka. Ensuite, l'imam ne va pas dire Alhamdou. Il va faire les trois takbirs du premier rakat. Allahu Akbar, je lève les mains, je lâche les mains. Allahu Akbar, je lève les mains, je lâche les mains. Quand je dis « je », c'est le imam, mais c'est tout le monde. Nous levons les mains, nous lâchons les mains. Et au troisième takbir, c'est le dernier des trois takbirs en plus. Allahu Akbar, je lève les mains et je croise les mains. D'accord ? Surat, alhamdou, surat normal, ruku, génuflexion, sijda, un namaz normal. Je me relève, l'imam va lire alhamdou, son surat, et attention, vous allez entendre Allahu Akbar, c'est pas pour le ruku. C'est les trois takbirs en plus. Si on y va, il faut revenir, d'accord ? On fait le premier, Allahu Akbar, nous levons les mains, nous lâchons les mains. Deuxième, nous levons les mains, nous lâchons les mains. Troisième takbir, nous levons les mains et nous lâchons les mains. Trois fois. Et le quatrième takbir, on va essayer de changer un peu de voix, inshallah, pour montrer que maintenant c'est le ruku. Et après le reste du namaz se déroule tout à fait normalement. Et après il y a le khutba. On va se mettre en rang, Mutawalli Islam.